Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler du déclin de la biodiversité en France et dans le Parc national des Cévennes avec Bertrand Schatz, directeur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS, Jocelyn von der Flick, chargé de mission faune au parc, et Franz Hopkins, chargé de mission flore au parc également. Bonjour à tous. Donc le 3 mars dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, l'UICN a publié la liste rouge des espèces menacées au niveau national après 13 ans d'études. Pour citer quelques chiffres, sur les 13 842 espèces évaluées, 2430 sont menacées et 187 sont éteintes. Peut-être déjà une première réaction sur l'évaluation. Donc depuis 2008, le nombre d'espèces évaluées n'a cessé d'augmenter. On est passé de 1766 en 2010 pour atteindre 13 842 en 2020, d'où peut-être l'augmentation du nombre d'espèces menacées.
Oui, ben moi je pense qu'il y a une partie qui vient d'une meilleure connaissance et un meilleur état des lieux dans le recensement des espèces que l'on fait. Mais d'un autre côté, il y a sans doute aussi une indication, une alerte sur des réelles menaces qui pèsent sur le monde vivant.
Bertrand Schatz, vous avez peut-être une réaction par rapport à ces chiffres ?
Oui, ben, de plus en plus de listes, et c'est très bien parce que ça permet à la fois de mesurer le nombre de données insuffisantes pour chaque groupe, et puis le nombre d'espèces menacées, et de comparer les groupes entre eux. Et on voit les groupes prioritaires, ça permet de bien identifier ces deux éléments.
Donc des évaluations qui augmentent, donc à ce jour nous sommes à 2430 espèces menacées.
Oui, alors il faut revenir sur les critères de l'UICN pour comprendre un peu ces chiffres. Il y a beaucoup d'espèces qui ont été évaluées actuellement parce qu'on a des données, ce qui n'était pas le cas au niveau historique. Donc effectivement, comme l'a dit Franz, une partie de cette augmentation est liée à l'amélioration des connaissances sur ces espèces, mais aussi des menaces qui sont maintenant bien plus précises qu'autrefois, qu'il y a 30, 40 ans, qu'on a bien identifiées et donc qui pèsent sur ces espèces aussi.
Donc pour citer quelques chiffres, donc à l'échelle de la France métropolitaine, ce sont 32% des oiseaux nicheurs, 24% des reptiles, 28% des crustacés d'eau douce, 19% des oiseaux d'eau douce, 14% des mammifères, 6% des papillons de jour, 12% des libellules et 8% de la flore vasculaire. On peut dire que c'est un baromètre, la situation varie selon les régions et les territoires.
Ben certainement, on sait que habituellement les plaines de culture sont souvent beaucoup plus impactées. Hein. C'est des actions humaines qui sont plus impactantes que dans les milieux montagnards ou forestiers. Donc déjà, je pense qu'il y a un contraste sur ce plan-là, des variations selon les situations géographiques.
Oui, la situation est complètement différente selon les territoires français, qu'on soit dans les DOM-TOM ou pas. Une partie des espèces éteintes, dans les 187 espèces éteintes, il y en a beaucoup qui concernent les territoires d'outre-mer. On a, bon, juste pour la petite histoire, on a un vertébré qui vient de disparaître, première espèce de vertébré qui vient de disparaître en France au XXIe siècle. C'est une pigrièche à poitrine rose. Le dernier mâle chanteur a été observé il y a 2 ans dans la zone méditerranéenne, pas très loin de Montpellier, et on sait que cette population, par exemple, actuellement est complètement éteinte.
Bertrand Schatz, peut-être une réaction ?
Oui, complètement. Je confirme ce que disent mes collègues. C'est dramatique d'assister à toutes ces disparitions, mais au moins on a l'avantage de ces statuts UICN, c'est que ça donne des valeurs standardisées à l'échelle mondiale, selon une méthode bien établie par tous. Et donc c'est vraiment des valeurs qui ont une signification. puisque c'est des valeurs qui peuvent être comparées à d'autres groupes, d'autres pays, d'autres régions. Et voilà, on peut comparer entre habitats, ça donne vraiment une méthode standardisée qui permet ça. Et c'est très utile pour alerter sur les groupes en danger.
Donc le parc national des Cévennes est un territoire préservé, en particulier dans sa zone cœur. En conséquence, le nombre d'espèces menacées, faune et flore, est-il moins important que dans d'autres territoires ?
Alors moi j'aurais envie de dire que pour la flore, c'est pas évident à affirmer beaucoup de choses, sauf que le ressenti est qu'on s'en sort mieux. Pourquoi on peut pas trop affirmer des choses fermement, c'est que en fait, la connaissance de la flore, elle est assez récente. On va dire qu'en gros, dans les années 90, on a commencé à vraiment étudier les espèces rares et à les localiser. D'une part, ça vient de là, la difficulté de s'assurer de l'évolution. Et d'autre part, par contre, comme on est dans un milieu montagnard, plutôt pastoral, forestier, on peut s'attendre à ce que ça tamponne pas mal les effets des actions anthropiques souvent néfastes. On a plutôt des systèmes extensifs au niveau pastoral, la difficulté d'accès au niveau forestier, qui fait que globalement, on a quand même un paysage qui se préserve et même une situation de déprise qui s'affirme depuis une centaine d'années. Donc, pour la diversité floristique, en tout cas, on s'en sort plutôt bien. Mais on parlera peut-être plus loin des menaces qui pèsent malgré tout.
Et peut-être dire que tout n'a pas été inventorié aussi.
Oui, c'était donc ce que je disais en premier, c'est que depuis les années 90, donc on mène un travail, c'est très récent, et sur les 2300 espèces qu'on pourrait espérer mieux connaître, on en a à peine étudié une centaine de près. Donc effectivement, une connaissance qui mérite d'être bien approfondie, et on commence à sentir des difficultés pour certaines espèces que l'on étudie de près.
Comme par exemple, rapidement ?
Ah oui, pour donner des exemples, en forêt, on peut penser aux lichens. Il y a des lichens qui sont donc c'est un monde végétal un peu à part qui appartient au monde des champignons en fait. Pour lesquels, en fait, à la fois au niveau forestier, par les incidences de l'exploitation, alors que ça peut être par les plantations, on appauvrit clairement le cortège des lichens. On n'en est pas forcément identifié des espèces menacées, mais voilà, c'est pour donner l'exemple d'un monde particulier. Après, pour les plantes vasculaires, les plantes à fleurs, on peut citer peut-être les plantes du milieu pastoral d'altitude, on peut s'inquiéter de la situation avec le changement climatique et puis des actions de brûlage qui, combinées à les deux situations, ne sont pas forcément favorables à la persistance d'espèces très rares.
Au niveau de la faune, Jocelyn ?
On peut penser effectivement que le territoire du parc national des Cévennes a moins d'espèces menacées qu'ailleurs sur le territoire de France métropole. Pour la bonne raison, c'est que la première cause d'érosion de la biodiversité, c'est l'altération des habitats. Et on est sur des territoires où les pressions humaines sur les habitats sont moins fortes que sur le reste du territoire national, que ce soit sur l'artificialisation des terres ou l'intensification agricole. On est plutôt sur des systèmes extensifs avec des espaces naturels relativement préservés de par l'action, entre autres, du parc national des Cévennes, du personnel qui est là pour surveiller et renseigner la qualité de ces habitats naturels. Donc on peut fortement penser que le nombre d'espèces menacées en ce qui concerne la faune est moins important qu'ailleurs sur le territoire national.
Et justement, du coup, de ces actions, que le fait qu'on soit dans un parc national, est-ce qu'il y a des groupes ou des espèces qui ont fait justement une remontée biologique depuis la création du parc ?
Alors, c'est difficile de répondre globalement. Actuellement, on a peu de dispositifs, mais ils sont présents maintenant sur le territoire du parc, qui nous permettent de renseigner l'évolution, à la fois, par exemple, de l'avifaune nicheuse au niveau du territoire du parc national des Cévennes, de l'évolution des populations de chiroptères, de l'évolution des populations de grands rapaces, des populations d'ongulés sauvages. Donc on a ces dispositifs-là, mais la nature des données renseignées est encore on a trop peu de recul sur ces questions-là pour avoir des tendances fortes, nettes, qui nous permettent de dire qu'on a eu des remontées biologiques fortes. Par contre, on a un certain nombre d'exemples sur des espèces particulières, avec à la fois des espèces qui ont plutôt régressé et puis des espèces qui ont plutôt augmenté.
Et pour la flore, j'aurais dit que, pareil, on ne peut pas être très précis, mais on a avec la situation de déprise, des cortèges d'espèces qui sont des espèces de lisières de forêt qui, en gros, profitent clairement. Alors, je pense notamment à des espèces protégées comme l'astère de Saint-Michel, qui fleurit en automne, avec des belles fleurs à corolle rosée. Et on a aussi d'autres plantes comme des grands sénessons, le Tephroseris hellenitis. Ce sont des grandes plantes qui échappent donc avec la déprise à du pâturage qui était omniprésent par le passé et qui du coup profitent quand même dans ce contexte de déprise.
Vous évoquiez les oiseaux nicheurs. Alors, la situation est plus contrastée, par exemple, en région Languedoc-Roussillon, où 41% des oiseaux nicheurs sont menacés. C'est plus qu'au niveau national. Vous citiez tout à l'heure la pigrièche, il y a également la perdrix grise, donc les vautours, percnoptères et moines, la fauvette à lunettes, le bruant des roseaux, le pluvier grignard. Donc, quelle est la situation dans le parc national pour les oiseaux nicheurs ?
Alors en fait, on a, à partir de 2014, on a mis en place un dispositif qui nous permet d'avoir des points d'écoute. C'est comme ça qu'on recense les oiseaux selon une méthodologie standardisée. Et on l'a fait pour chaque maille de 1 km² dans l'ensemble du cœur du parc. Et donc on a eu 1100 points d'écoute réalisés, donc de façon systématique sur l'ensemble du territoire du parc. De 2014 à 2018, hein, ça représentait un travail très conséquent. Il y a plus d'une année de journée pour une personne au total. Et l'idée, c'est qu'on puisse reprendre ces points d'écoute sur un pas de temps de 10 ans. Et ça nous donnera des tendances sur les différentes espèces dans le cadre de ce que l'on appelle le changement global, donc changement d'usage des terres, hein, altération, création de nouveaux habitats, changement climatique, introduction d'espèces, pollution diffuse à large échelle, et puis la dernière cause à l'échelle mondiale dans les changements globaux, c'est les prélèvements qui sont effectués notamment dans le monde de la pêche et des prélèvements sur des espèces comme la chasse. Donc c'est ce qu'on appelle le changement global. Et donc le dispositif qui a été mis en place nous permettra, alors il faudra revenir au moment où on aura les premiers résultats, sur ces tendances par une méthode qui est standardisée.
Bertrand Schatz, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter par rapport à cette question ?
Oui, en fait, entre faune et flore, un des points communs qu'on retrouve entre les espèces qui sont classées comme menacées par l'UICN, c'est que très souvent, ce sont des espèces spécialisées. Et ces changements globaux sont aussi associés, on l'a vu dans le rapport IPBES, à une homogénéisation des espèces. C'est-à-dire que toutes les espèces qui présentent un caractère de spécialisation, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de l'habitat, au niveau des interactions avec d'autres espèces, comme la pollinisation, comme des relations d'alimentation spécifiques, toutes ces espèces spécialisées sont plus particulièrement menacées. Parce qu'en fait, elles ont leur propre vulnérabilité, et puis elles ont la vulnérabilité associée à l'interaction, et puis aux conditions d'interaction.
Vous pourriez nous donner un exemple ?
Par exemple, la mésange bleue qui doit choisir ses dates de ponte en anticipant la sortie des chenilles. Donc si les chenilles ont une réaction différente par rapport à la température, différente par rapport aux mésanges, les chenilles vont sortir plus tôt, les mésanges vont pondre trop tard, et du coup on aura un décalage phénologique entre la sortie des chenilles et l'alimentation des petites mésanges. Donc là, on a vraiment un cas de décalage dû à une spécialisation alimentaire. Et donc, toutes ces espèces spécialisées sont vraiment les cibles du changement global.
Pour parler d'un autre groupe peut-être, donc les reptiles, donc une liste commentée a été établie au niveau du parc. Donc, il y a plusieurs espèces, donc peut-être déjà Jocelyn, qu'est-ce qu'une liste commentée peut-être avant tout ?
C'est une liste qui nous permet de faire un point sur l'état de nos connaissances sur un groupe biologique donné. En regardant dans les données historiques, savoir ce que l'on sait sur les différentes espèces. Alors ça peut être juste un catalogue d'espèces présentes sur le territoire du parc, c'est quelque chose d'important, hein, puisqu'une des premières questions qu'on nous demande c'est combien d'espèces au niveau du parc. Donc là, on le sait précisément pour les reptiles. C'est aussi savoir la distribution de ces espèces et savoir quel type d'habitat elles utilisent, voire à quelle période elles apparaissent. Alors pour ce qu'on appelle, nous, la phénologie, c'est-à-dire à quelle période on voit les premiers accouplements, les premiers jeunes juvéniles sortir ou les premières pontes pour les oiseaux. Donc ça, c'est important d'avoir cette connaissance qui est à la fois reste en interne au niveau de l'établissement public, Parc National des Cévennes, c'est-à-dire qui restera dans l'histoire pour les gens qui viendront après nous. Et c'est aussi une connaissance qui est livrée à tous les acteurs puisque ces listes commentées sont disponibles sur le site internet du parc et téléchargeables.
Tout à fait. Et donc, il y a deux espèces qui sont vulnérables au niveau des reptiles sur le territoire du parc.
Alors, il y a les espèces les plus vulnérables, ce sont les espèces qui sont plutôt des espèces d'altitude, comme le lézard des souches, la vipère péliade et le lézard vivipare. Parce que dans le cadre du réchauffement climatique, ces espèces ne pourront pas monter beaucoup plus haut. Hein. Le point culminant, c'est le mont Lozère à 1699 mètres. Donc ces espèces, à un moment donné, avec le réchauffement attendu des températures, ne pourront pas monter beaucoup plus haut. Elles seront limitées. Et comme elles sont pour un certain nombre de ces espèces en limite de distribution, par exemple la vipère péliade, c'est les dernières populations qu'on a dans le sud du Massif central, comme pour le lézard des souches. C'est une espèce, par exemple, qu'on n'a pas sur les Goales. C'est le lézard des souches et la vipère péliade. Elle est uniquement présente sur... ces deux espèces sont uniquement présentes sur le mont Lozère. Et donc, on peut s'attendre, en tous les cas, que dans le cadre du changement climatique, ces espèces soient fortement impactées à l'avenir.
Ça veut dire donc si elles ne peuvent pas monter, est-ce qu'elles pourront s'adapter dans une certaine mesure ou pas ?
Eh bien ça, c'est tous les enjeux des recherches actuelles, de voir quelles sont les capacités d'adaptation de ces espèces à ce changement climatique. Une des réponses, par exemple, observées par les chercheurs sur le mont Lozère, c'est que ces individus ont des tailles plus importantes qu'ailleurs, liées au réchauffement climatique. Mais par contre, ils vieillissent beaucoup plus vite. C'est-à-dire les cellules vieillissent beaucoup plus vite et c'est une découverte majeure en tous les cas sur ce groupe biologique.
On peut peut-être aussi nuancer les choses sur les craintes qu'on peut avoir. Alors je ne sais pas tant pour la faune, mais historiquement depuis la dernière glaciation où la végétation avait beaucoup reculé vers la Méditerranée, il n'y avait quasiment plus de forêt au-delà des Cévennes, pour simplifier. Il y a quand même eu des périodes depuis la remise en place de la végétation il y a 15 000 ans, plus chaudes, où le niveau, par exemple, des forêts était monté dans les Pyrénées à 200 mètres au-dessus de ce qu'il est actuellement. Bon, c'est les Pyrénées, il y avait des zones refuges là-bas en altitude. Mais pour les Cévennes et pour la flore en particulier, on peut se dire que si la végétation a persisté, ou peut-être s'est enrichie aussi, mais durant des millénaires, elle a vu des périodes plus chaudes et pour des plantes qui seraient par exemple subalpines, on peut penser que le milieu montagnard offre peut-être des refuges qu'on a du mal sans doute à identifier, à localiser. Et voilà, c'est pour nuancer un peu les craintes qu'on peut avoir, mais ça n'empêche que clairement le changement climatique, le réchauffement pèse comme une menace en combinaison avec d'autres facteurs humains qui se rajoutent. Ever since I was a kid, you sure look good to me. Now I'm a man.
I wonder when they're going to destroy your face. It may seem silly, but I don't like what's been coming down. 'Cause you've been looking good too long to change your color now. They might test some bombs. I hope I'll see you in the sky at night when I get old. I hope you'll look about the same as when I was a boy. It gets me to gasping. And it's sad to say you won't shine so bright someday. When they're through with you, I bet you've seen the love we made that covers our ballet. I wonder if you might be mine, a shroud like that someday. I'm worried about it, it makes me sigh. I just can't help it, I wonder when they're going to destroy your face. Tomorrow, I just don't know. It might take years. I wonder when they're going to destroy your face.
Pour parler d'un autre groupe, peut-être les insectes. Donc si on parlait plus précisément des orthoptères, donc 15 espèces sont recensées sur le parc. Alors hein, pour les orthoptères, hein, ce sont les sauterelles, les criquets. Donc quelle est la situation dans le parc national des Cévennes? Donc certaines sont mal en point ou...
Alors c'est l'une des premières listes commentées qu'on a élaborées, et actuellement on est à 95 espèces recensées sur le territoire du parc, avec de nombreuses espèces qui sont considérées comme rares et menacées à l'échelle européenne. Menacées parce que leurs distributions sont limitées ou pas, parce que leurs effectifs sont faibles. C'est le cas, par exemple, de certaines espèces qui sont endémiques au territoire des Cévennes, c'est-à-dire qu'on retrouve à l'échelle mondiale que uniquement ici. Alors, c'est le cas pour l'Archiptère cosnard, et puis quelques autres espèces avec des noms un peu particuliers. Et puis, l'autre aspect particulier, c'est qu'on a des populations. Alors là, ce ne sont pas des espèces endémiques, mais qui ne sont présentes que sur le mont Lozère ou sur le mont Aigoual, sur l'ensemble du massif central. Alors, c'est le cas du criquet marcheur, par exemple, qui est limité sur la partie sommitale autour du pic Cassini. Ou du barbiste à bouclier, qui est présent sur les Aigoual aussi, sur les hauteurs de les Aigoual. Et pour ces deux espèces, et ben, pareil que pour les reptiles, on peut craindre que le changement climatique ait un impact à l'avenir sur le devenir de ces populations.
Et est-ce qu'il y a justement des actions qui sont anticipées pour prévenir ce déclin potentiel?
Alors... intervenir sur le changement climatique, ça ne se passe pas qu'au niveau du territoire du parc national des Cévennes. Par contre, intervenir sur les habitats pour permettre à ces populations d'être, par exemple, connectées entre elles, oui, ça peut se faire. Et c'est ce qui a été fait en partenariat avec l'Office national des forêts sur les crêtes du Mont-Lozère. On avait deux populations qui étaient séparées par un grand boisement. On a créé un corridor et on espère que ce corridor permettra des échanges d'individus, donc un brassage génétique qui affectera moins ces populations à l'avenir.
Bertrand Schatz, vous vouliez réagir par rapport à cette problématique ?
Oui, l'avantage des listes rouges, c'est au-delà des listes d'espèces en données insuffisantes ou des listes d'espèces menacées, c'est aussi l'identification des menaces et de l'importance relative de ces menaces par groupe d'espèces. Donc ça, c'est un outil très important pour prioriser, connaître les menaces, les prioriser et éventuellement pouvoir agir dessus. On parlait des insectes, là, je ne peux pas m'empêcher de parler des pollinisateurs, puisque c'est un groupe qui vient d'être recensé, enfin, vient d'avoir un premier recensement à l'échelle du parc des Cévennes avec plus de 260 espèces. On va continuer le recensement. Et sur ce groupe-là, la menace principale, c'est les pesticides, mais qui sont très limités à l'échelle du parc des Cévennes. Pour le parc des Cévennes, c'est plutôt la diminution des ressources florales. Et donc là, le parc s'engage dans différentes actions autour des haies, des plantations de haies, des moindres destructions de haies, mais aussi des prairies fleuries. Et donc toutes ces actions vont permettre une alimentation complète qui permet d'assurer la diversité des abeilles sauvages, mais aussi des autres types de pollinisateurs.
Et justement, est-ce qu'il y a une liste rouge sur les abeilles sauvages au niveau national ?
On vient d'avoir la réunion hier, et donc sur les pollinisateurs, c'est un groupe énorme, il y a 10 000 espèces, dont 1 000 espèces d'abeilles sauvages en France, et 1 000 espèces, c'est un gros travail pour chaque espèce, donc un énorme travail en perspective, donc ça a été lancé hier, ça devrait être financé par le ministère de la Transition écologique, et c'est un travail qui va s'établir sur 2 ans. À l'échelle nationale. Il y a une liste rouge européenne, puisque là aussi, les listes rouges peuvent être établies à l'échelle globale, à l'échelle du globe, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et aussi à l'échelle régionale. Donc ça permet de localiser, de voir les effets principaux et puis de les détailler ensuite à des échelles plus fines.
Donc vous disiez 10 000 espèces ?
De pollinisateurs à l'échelle nationale France métropolitaine.
Donc il y a un énorme travail à faire si aujourd'hui on n'en connaît qu'un millier.
Énorme, puis, avec des enjeux aussi énormes, puisqu'ils vont permettre à la fois la production dans les champs cultivés, mais aussi la fonction écologique de pollinisation des différentes espèces de flore. La grande majorité, plus de 80% des espèces sont pollinisées par les insectes. Et donc une réduction des insectes, ça correspond à une réduction, enfin des insectes pollinisateurs, ça correspond à une réduction de toutes ces fonctions et tous ces services écosystémiques. Et donc là, les problématiques sont autour de la conservation de la ressource florale, en diversité et en abondance, pour avoir une diversité et une abondance de pollinisateurs. Donc c'est un gros chantier, vraiment.
Très bien, merci pour ces informations. Un autre pollinisateur, c'est aussi le papillon. Alors, il y a certaines espèces qui sont aussi en danger. Donc, c'est le cas de l'apollon, donc, qui est une espèce montagnarde, Jocelyn.
Oui, c'est une espèce qui avait une distribution bien plus large qu'aujourd'hui. On a des populations qui se sont éteintes. Hein, maintenant, c'est bien renseigné sur le causse noir, sur les cascades d'Orgon, sur le mont Aigoual. Ça fait 2 ans qu'on n'a plus d'observation d'adultes de ce papillon. Et on a encore des belles populations présentes à la fois sur le causse Méjean et sur le causse de Sauveterre. Et on a un dispositif qui se met en place pour suivre justement ces populations et de voir si elles vont pouvoir aussi se maintenir, s'adapter dans le cadre du changement climatique. Pareil, ce sont des espèces de montagne, elles sont sur les plateaux des Causses à 1000 mètres d'altitude et elles ne pourront pas monter au-dessus parce qu'on est limité à 1240 mètres d'altitude sur le point culminant du Causse Méjean.
Il ressemble à quoi, l'Apollon ?
Alors, l'Apollon, c'est un grand papillon plutôt blanc avec des points noirs et points rouges, voilà, qu'on peut voir ici sur les côtes à partir de la première décade de juillet.
Et là, j'en profite pour indiquer que l'Apollon, c'est vraiment un exemple d'espèce spécialisée avec une chenille qui est spécialisée sur une plante, l'adulte qui va se nourrir sur un autre type de plante. Ces plantes dépendant d'un habitat particulier. Donc là, on est vraiment sur une espèce qui est spécialisée et qui, de par ses spécialisations, est fragile. Elle a besoin du maintien de ces deux types d'habitats pour pouvoir se maintenir, avec une connexion entre les différentes populations. Donc là, c'est vraiment une espèce vulnérable.
Oui, s'il ne reste plus qu'une population sur les côtes, effectivement, y a danger.
Cette population, en plus, est isolée maintenant dans le sud du Massif central, puisque les premières populations sont présentes dans le Cantal. Donc très loin, au-delà des capacités de dispersion connues de cette espèce effectivement spécialiste.
Peut-être parler d'un autre papillon, donc l'azuré des mouillères. Donc, sauf si je me trompe pas, c'est un papillon bleu, un petit papillon bleu.
Oui, c'est un petit papillon bleu, et pour illustrer les interactions qu'évoquait Bertrand Schatz hein, dans les espèces spécialisées, on a aussi un très très bon exemple, puisque ce papillon, comme le genre Maculinea, a besoin à la fois de fourmis, la présence de nids de fourmis pas très loin des chenilles pour pouvoir être élevé dans ces fourmilières et dépend d'une plante hôte. Alors pour l'azuré des mouillères, c'est la gentiane pneumonante qui elle-même dépend d'une pression de pâturage comme beaucoup d'espèces des milieux ouverts. Une absence de pâturage provoque une augmentation des développements des ligneux qui vont être néfaste au maintien des populations de gentiane pneumonante sur laquelle va pondre ce papillon. Et puis si on a une trop forte pression de pâturage, la plante étant un peu appétante en tous les cas pour le bétail, elle est vite mangée avec les œufs qui sont pondus de ce papillon dessus.
On le trouve où, ce papillon ?
Alors, au niveau du parc, ces dernières années, on a mené une grande campagne de prospection sur tous les milieux qui nous semblaient favorables, notamment en cartographiant les zones humides où pousse cette plante, la gentiane pneumonante. Et on a identifié des populations encore bien présentes sur le mont Lozère, sur le massif du Bougès, et une petite population très limitée et autour de l'Aigoual, sur un secteur autour du sommet de l'Aigoual. Et c'est sur ce dernier massif l'unique population qu'on a identifiée à ce jour.
Donc vous parliez des milieux humides. Franz, au niveau de la flore, qu'est-ce qu'on peut dire de la flore actuellement, des milieux humides et des tourbières ?
Alors, les tourbières, j'aurais peut-être rebondi sur la gentiane, en fait, par rapport à, disons, le schéma caricatural de dire que absence de pâturage, il y a fermeture. C'est un schéma qui vaut, hein, mais il est peut-être, ce serait schématique de se dire que systématiquement, quand il n'y a plus de pâturage, par exemple, la gentiane pneumonante disparaîtrait. En fait, clairement, peut-être, son extension actuelle, elle serait impactée. Mais il y aurait forcément des endroits où elle persisterait, ne serait-ce que parce qu'en altitude, dans des zones plutôt humides, c'est là qu'elle préfère être. La dynamique des ligneux, si elle se manifeste, elle reste lente. Et les arbres qui s'installent végètent un peu, ils restent espacés. Et on voit des contextes qui ont subi cette déprise où la gentiane persiste. Et comme d'autres espèces de milieux dits ouverts, qui sont ouverts, mais qui peuvent subir une certaine fermeture sans que ces espèces ne disparaissent totalement. Elles se réduisent en effectif, c'est surtout ça qui se passe. Je parle pour les plantes, c'est un phénomène qui est assez fréquent. Voilà. Alors pour revenir aux zones humides, oui, clairement, quand on parle des zones humides, il y a une grande variété de milieux. Celui qui est un peu l'enjeu phare au niveau du parc, c'est les milieux tourbeux constitués par des mousses qui s'appellent les sphaignes. Et clairement, eux, ils pâtissent de deux choses. Au-delà du réchauffement climatique, puisque ce sont des milieux qui hébergent aussi en altitude des plantes qui se sont réfugiées et qui sont liées à... Enfin, des mousses qui sont boréo-arctiques, on dit, ou alpines, donc qui nécessitent des climats avec enneigement, gel, pour se développer, parce qu'elles, de fait, elles sont maintenues grâce à ces rigueurs climatiques qui empêchent d'autres espèces de prendre le dessus. Au-delà de ce problème de changement climatique, la fertilisation, c'est-à-dire quand les animaux passent dessus, ça peut induire des modifications au niveau de l'équilibre des plantes et qu'elles vont disparaître parce que d'autres plantes vont prendre le dessus. Et d'autre part, il y a tout simplement une action physique. Quand le piétinement est trop dense par le simple fait que ce sont des troupeaux qu'on amène là-haut et qu'en été, avec la sécheresse, ils peuvent se concentrer dans ces milieux à la recherche de l'eau, eh bien, finalement, on s'aperçoit que la destruction physique de la structure en butte, par exemple, de ces tourbières, va nuire à moyen terme à la pérennité de beaucoup d'espèces qui vivent dans ces milieux.
Parlons d'un autre milieu, peut-être les orchidées. Alors, comment se portent les orchidées ?
Alors, je pense que Bertrand aura des choses à dire, mais peut-être je vais laisser Bertrand parler. Je rajouterai quelque chose après.
Les orchidées sont assez bien diversifiées à l'échelle du parc, vu la diversité des habitats du parc. Les orchidées sont marquées par différentes stratégies de pollinisation, et en fonction des stratégies de pollinisation, il peut y avoir des pollinisations là aussi spécialisées et qui les rendent dépendantes de leurs pollinisateurs. Donc globalement, on est sur des milieux ouverts relativement stables. Petite tendance à la fermeture parfois, mais les orchidées se portent plutôt bien globalement, avec des exceptions dans les milieux humides, avec des milieux qui se referment parfois rapidement, avec peut-être aussi une pression de cueillette, mais globalement, elles se portent plutôt bien, avec aussi des particularités. Il y a des espèces endémiques. Il y a l'Ophrys de l'Aveyron, il y a l'Ophrys des Grands Causses, l'Ophrys des Monins. Donc une richesse tout à fait particulière et une responsabilité du parc pour la conservation de ces espèces.
Il y a combien d'espèces recensées à ce jour ?
Donc moi je peux rajouter, oui, là-dessus je peux répondre en termes d'espèces, on est à 76, 75. Après quand on parle de sous-espèces, c'est des nuances qui sont importantes biologiquement, on arrive presque à 100. Voilà. Et pour rajouter des informations sur l'écologie des orchidées très variées, en fait, on a des orchidées qui sont plutôt de milieux boisés autant que de milieux humides, d'autres qui sont dans les situations intermédiaires. On en a donc dans des zones humides, dans des milieux secs. Donc c'est un cortège d'espèces très variées, effectivement, écologiquement. Et donc, par rapport aux changements qui vont arriver, de toute façon, c'est en soi un ensemble qui va persister. Mais c'est vrai qu'il faut regarder espèce par espèce. Dans les milieux boisés, on peut déjà rajouter aussi qu'on a des espèces qui sont strictement... on dit saprophytes, hein, c'est un terme pour dire qu'elles se nourrissent de tout ce qui est dans la litière grâce aux champignons qui décomposent la litière. Ça, pour nous, ce sont des espèces... D'abord, elles sont rares, mais elles sont vulnérables parce que le moindre changement au niveau de la gestion forestière qui, par exemple, fait des coupes et avec des risques d'assécher le milieu, parce qu'on sait que la forêt tamponne les variations de température, de lumière. Surtout au niveau de température et assèchement, ça pourrait, pour ces espèces-là, être fatal. Alors que ce sont des espèces très rares, et donc on sait que les actions humaines sont des menaces permanentes sur les stations très rares de ces espèces-là. Alors je pense notamment à la racine de corail, qui est une petite espèce plutôt blanchâtre, verdâtre, qui n'a pas de chlorophylle en fait, ou très peu, et à l'épipogon, qui est une plante assez translucide, blanchâtre, un peu fantomatique, et pareil, qui est associée au hêtraie. Et ces deux espèces sont assez exceptionnelles du fait de se livrer, enfin de remettre leur sort à cette association entre les champignons et les arbres pour faire leur cycle de vie. Et donc là, on a un cas d'espèces d'orchidées forestières qui sont en dépendance totale de cette... comme disait Bertrand, des plantes qui ont une spécialisation extrême.
Dernière question par rapport à la flore, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, la menace sur les lichens. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui sont menacées à moyen ou à long terme?
On parle d'espèces ou de groupes d'espèces. Oui, il y a les plantes messicoles, ce sont des plantes qu'on trouve dans les cultures. Alors ça, c'est carrément à l'échelle internationale, mais nationale aussi. Donc des plantes qui ont une origine du Moyen-Orient pour la plupart, d'autres qui sont indigènes, mais comme le coquelicot et peut-être le bleuet, que tout le monde connaît, je pense. Et ce sont des espèces qui, du fait des pratiques culturelles qui s'intensifient et avec la période beaucoup d'utilisation d'herbicides depuis les années 60, ont vraiment périclité. Et encore une fois, ici au parc des Cévennes, ça n'a pas été leur sort grâce à une très faible utilisation d'herbicides. Mais quand même, se manifeste une tendance à des modifications culturales qui peuvent leur porter préjudice. Et on identifie, il y en a une centaine à l'échelle nationale. Dans le parc, je ne sais plus le nombre exact, mais bon, on est forcément à moins de 100, une soixantaine peut-être. Et clairement, il y en a une dizaine qui sont très rares et qui peuvent être menacées. Mais il y en a une qui est particulièrement attrayante, l'Adonis flamme, là. En anglais, je crois qu'elle s'appelle l'œil de faisan, pour dire que c'est un peu percutant et attrayant comme aspect. Elle a des pétales rouges éclatants, rouge sang, et elle est clairement associée strictement à ces cultures. Quand on la voit, on a vraiment envie de faire quelque chose pour elle.
Est-ce qu'on peut terminer cette émission par une bonne nouvelle ?
Oui, oui. La bonne nouvelle est presque le paradoxe sur les questions de biodiversité, c'est que si cette liste d'espèces menacées s'allonge, c'est parce qu'on a beaucoup d'espèces qui sont plutôt en régression, et ça c'est le lot de la plupart des espèces communes, c'est-à-dire dès qu'on touche à des changements d'habitat tels qu'on les connaît à l'échelle nationale, c'est-à-dire intensification agricole, urbanisation, artificialisation des sols, fragmentation des habitats, toutes les espèces communes et qui constituent le gros lot des espèces sont impactées. Par contre, pour les espèces qui étaient considérées comme rares autrefois menacées, avec des menaces qui ont été bien identifiées, les programmes de conservation, c'est-à-dire les moyens humains, financiers qu'on a mis pour les préserver, ont porté leurs fruits, et il y a beaucoup d'espèces qui étaient considérées comme rares, qui sont maintenant en augmentation. Alors, quelques exemples au niveau du parc, les vautours avaient disparu, le vautour fauve avait disparu, maintenant on a une population qui est en très forte augmentation. On avait le percnoptère, un autre vautour qui avait disparu, il est revenu naturellement. On a réintroduit le vautour moine, on a aussi réintroduit le vautour fauve, donc des populations qui augmentent, alors pas uniquement sur le territoire du parc, hein, mais qui au niveau national augmentent. On a des espèces qui ont arrêté d'être piégées comme la loutre, maintenant les populations recolonisent les territoires où elle avait disparu. Le castor a été aussi réintroduit au niveau du parc. Donc dès qu'on met des moyens humains pour préserver la biodiversité, des moyens humains et des moyens financiers, sur un certain nombre d'espèces rares, quand on a bien identifié les menaces sur ces espèces, on a des résultats globalement positifs.
Bertrand Schatz, peut-être un commentaire ?
Oui, il y aurait plein de choses à dire, et on voit à travers les différents exemples qu'on a cités que rien n'est simple, que les espèces sont interdépendantes entre elles et aussi avec leur habitat. Les bonnes nouvelles sont pas si fréquentes, mais c'est vrai que la bonne nouvelle d'une façon générale, c'est que c'est malheureusement à travers les disparitions qu'on se rend compte de la complexité de l'écologie des espèces. Et l'identification des moyens pour les conserver. Donc on sait conserver beaucoup d'espèces, on sait quelles actions il faudrait faire. Il faut juste avoir les moyens, comme à l'échelle d'un parc, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens en temps. Et ça, ce sont finalement les choses les plus difficiles à rassembler. Il y a aussi différentes actions. On a aussi priorisé les différentes espèces selon la liste rouge, mais aussi à travers différentes études scientifiques. Et donc, globalement, on sait les espèces prioritaires et on connaît les menaces qui pèsent sur elles. Donc, on a les informations pour les conserver. Reste à rassembler les moyens humains et financiers pour effectuer ces plans de conservation. Donc c'est possible si on s'en donne les moyens.
Merci. Franz, peut-être une bonne nouvelle ?
Oui, ben, bonne nouvelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis qu'on s'attelle à connaître mieux la flore, systématiquement, presque chaque année, on découvre des espèces qui n'avaient pas été recensées sur le territoire. Des espèces qui pour beaucoup sont en fait des espèces qui sont sans doute des reliques très lointaines de la période glaciaire. Par exemple la violette du Mont Cenis ou une petite graminée qu'on a trouvée, la grostis je vais passer le nom latin mais je le cite quand même, Schleicheri, qui est nichée sur une falaise face nord, donc en climat très froid et qui est très, très isolée dans le parc, et on a d'autres espèces comme cela qui sont sans doute des reliques et qu'on est passé à côté, pour dire que c'est effectivement la montagne est un habitat très complexe qui offre des refuges malgré tout au travers les temps, au travers les grands changements de paysage. C'est de toute façon en soi, au-delà de l'effort que l'homme peut faire pour préserver, une assurance qu'il y aura des refuges pour une partie des flores vulnérables. Et l'autre point, je pense, positif, c'est que de toute façon, l'homme étant lui-même conscient des facteurs de menace qu'il représente, on peut toujours avoir l'espoir, et je pense qu'il y a beaucoup de gens sensibles sur le territoire, que ce soit des forestiers, des exploitants et des habitants, pour que en fait les choses s'améliorent avec une connaissance à l'appui. Voilà.
Très bien, je vous remercie. Mais écoutez, je vous propose de conclure cette émission. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur la faune et la flore du Parc national des Cévennes, vous pouvez vous rendre sur notre site www.cevennes-parcnational.fr et également participer à des animations durant l'été. Hein, certaines sorties sont naturalistes, ou alors de vous engager, de participer à des inventaires qui sont réalisés dans le cadre des atlas de la biodiversité communale. Vous en avez peut-être à côté de chez vous. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc national des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h.